Hamza Abou Halil, lui, il a sauvé bien une personne. C'est un témoignage d'un jeune homme qui a essayé de se cacher au moment de la rafle de Tunis. Et il est tombé sur son hammam qui était en face de chez lui. Donc il a tapé à sa porte et il a ouvert, il l'a caché pour ne pas qu'il soit pris par les nazis.
Bettina Massa dresse une quinzaine de portraits à travers son exposition. Simplement juste, ils sont maghrébins, arabes, égyptiens ou encore iraniens. Leur point commun est d'avoir sauvé des juifs de l'extermination nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Il y a Salahattin Koulmen, alors ça c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. C'était un ambassadeur à Rhodes qui a appris qu'il y avait une rafle parmi les juifs turcs de Rhodes. Et il les a défendus et il leur a fait aussi des laissez-passer pour qu'ils puissent retourner en Turquie. Et il a inventé une loi en disant qu'à partir du moment où quelqu'un était turc, qu'il soit marié avec un juif ou un non-juif, la personne devenait turque forcément. Donc c'était pour sauver les conjoints qui pouvaient être juifs. Et il a fait comme ça toute une série de laissez-passer. Et quand les Allemands se sont aperçus de ce qu'ils ont appelé une forfaiture, ils ont bombardé l'ambassade et sa femme qui est enceinte est morte sous les bombardements. Et puis alors il y en a un, il faut vraiment que je le cite parce que je trouve que c'est une des histoires les plus extraordinaires. C'est un Iranien qui s'appelle Abdul Hussein Sardari, qui lui était un consul à Paris, donc en plein Paris occupé. Il était juriste, il a fait une procédure en direction des Allemands. Et il a dit que tous les juifs d'Iran n'étaient pas juifs parce qu'à une époque donnée, un chah d'Iran avait dit que tout le monde était iranien, etc. Et donc il a fait jurisprudence. Et les Allemands, qui étaient très procéduriers, ont suivi sa plainte. Ça a duré 6 mois. Bon, à la fin, le gouvernement allemand a dit non, ce ne sont que des histoires de juifs. Mais toujours est-il qu'il a gagné 6 mois pour faire des passeports. Et en 42 ou en 43, je ne sais plus, il y a eu un accord de paix qui a été signé entre l'Iran et les Alliés. Donc il n'y avait plus de raison qu'il reste à Paris. Et son gouvernement l'a rappelé. Et au lieu de rentrer, il a loué sur ses fonds personnels l'ambassade pour continuer à faire des passeports. Et on pense qu'il a sauvé au moins 2000 personnes. Et il est tombé complètement dans l'oubli.
Elle a mené un long travail de recherche avec l'aide de son mari marocain pour retrouver ses histoires. L'égyptien Mohamed Elmi est le seul arabe qui soit reconnu comme juste et cela ne fait que 4 mois environ qu'il a acquis ce statut après avoir aidé une famille juive dont il s'occupait en tant que médecin. Il a à l'époque caché leur petite fille dans une cabane alors qu'il était lui-même surveillé. Mais cette reconnaissance est bien loin d'être représentative de toutes celles et ceux qui se sont montrés solidaires.
Il s'agit des personnes qui ont sauvé des juifs et qui, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas reconnues officiellement par différentes structures, mais qui sont un petit peu dans l'oubli, voire pour certaines totalement dans l'oubli. Et donc j'ai voulu d'abord commémorer ces gens-là, donc garder une mémoire par rapport à eux. Et j'ai voulu aussi marquer la présence de personnes anonymes, parce que à travers tous les témoignages que j'ai pu lire et recueillir, on voit que cette attitude vis-à-vis des juifs n'était pas le fait de quelques individus isolés, mais que c'était un comportement général dans les populations du Maghreb, et que on a par exemple le témoignage d'une dame qui a porté du lait à un bébé, des choses comme ça qui sont peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais qui à l'époque ont permis de sauver des vies et donc des hébergements pour quelques jours, des choses comme ça, et dont on a perdu le nom de ces gens-là. Donc j'ai voulu aussi qu'on se rappelle de ces anonymes qui n'ont pas laissé de traces par leur nom, mais par leurs gestes.
Bettina Massa insiste, ces justes n'ont pas forcément opéré dans leur pays d'origine. Les valeurs qu'ils ont défendues en venant en aide aux Juifs font partie intégrante de leur être. Ils les ont donc transportés avec eux dans tous leurs déplacements, y compris à l'étranger, y compris à Paris.
Il y a eu des Arabes à Paris qui ont sauvé des Juifs aussi. Ce n'est pas limité au Maghreb, mais en plein Paris, occupé par les nazis. Il y a eu la mosquée de Paris avec le recteur de la mosquée de Paris. Bon, ça, c'est des faits qui sont connus. Il y a des faits qui sont un petit peu moins connus. Ce sont des médecins qui se sont mobilisés à l'hôpital franco-musulman de Bobigny, qui ont même créé un groupe de résistants entre Arabes et Juifs, et qui ont caché des résistants, mais qui ont aussi caché des Juifs, et qui ont aidé un certain Juif d'avoir des attestations de la part de la mosquée de Paris, comme quoi ils étaient musulmans, ce qui leur a permis d'être sauvés.
Une France qui a tenté d'imposer le pogrom contre les Juifs, et des pays arabes qui ont décidé de ne pas suivre le mouvement.
En 1940, quand la France perd devant l'Allemagne nazie, et que Pétain prend le pouvoir, c'est Pétain et son gouvernement qui imposent aux 3 pays du Maghreb l'application des lois anti-juives, comme ça a été le cas en France quelques mois avant. Et le parallèle qu'on souvent ne fait pas, c'est qu'à cette époque-là, donc, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, ceux qui avaient le pouvoir, c'était les pétainistes, c'était Pétain. Et les lois anti-juives ont été imposées par les Français dans ces pays-là, et les Marocains, les Algériens et les Tunisiens ont refusé de les appliquer. Chacun à sa façon. Au Maroc, le roi du Maroc a refusé de les signer. En Tunisie, c'est le Bey de Tunis, Moncef Bey, qui a aussi refusé de signer les lois anti-juifs et qui a dit « il n'y a pas de juifs ou d'arabes, il n'y a que des Tunisiens ». En Algérie, ce sont dans les mosquées des religieux éclairés qui ont lancé des appels à ce que les musulmans ne prennent pas possession des biens des juifs spoliés par les Français. Il y a eu plusieurs appels au pogrom qui ont été faits par les Français dans ces trois pays et à aucun moment les Arabes ne sont allés dans les quartiers juifs pour massacrer les juifs. Ils ont refusé absolument de se prêter à ce jeu-là. Mais donc la relation entre juifs et arabes du Maghreb et des autres pays arabes était beaucoup plus sereine qu'on ne peut l'imaginer. Il y avait une entraide entre gens du peuple qui se connaissaient depuis des siècles.
Bettina Massa regrette que différentes bribes de l'histoire soient occultées dans les livres scolaires. C'est ce manque ou ce trop peu auquel elle souhaite pallier par le biais de son œuvre en dévoilant notamment les camps de travail présents au Maroc, en Algérie ou encore en Tunisie.
Ce qu'on ignore très souvent, c'est que dans les pays du Maghreb, il y avait une centaine de camps de travail qui ont été parfois appelés camps de concentration, qui ont été créés toujours par le régime de Vichy. Donc au Maroc, essentiellement, ces camps avaient pour objectif d'héberger des prisonniers qui devaient construire une ligne de chemin de fer à travers le désert pour relier le sud du Maroc à Alger. Dans ces camps, il y avait essentiellement des gens qui étaient déportés de France, qui venaient de camps comme le camp des Milles, que les forces de Vichy ont envoyé au Maroc. Parmi ces gens, il y avait des Juifs d'Europe de l'Est, qui étaient donc venus se réfugier en France et qui ont été emprisonnés par Vichy au moment où la France a été défaite. Et qui ont été donc envoyés dans ces camps. Avec eux, il y avait des républicains espagnols, il y avait des anarchistes, il y avait des francs-maçons, il y avait des anti-nazis. Donc tout ce qui pouvait s'opposer soit à Vichy, soit au nazisme, ou qui était juif, était emprisonné dans ces camps. Et donc il y a eu des bateaux qui sont partis vers le Maroc pour alimenter les camps de concentration du Maroc pour construire cette ligne de chemin de fer. Et les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Ils étaient très maltraités. Bon, c'était la chaleur du désert et du travail de force. Il y a eu énormément de personnes qui en sont mortes.
L'exposition a été réalisée spécialement pour la commémoration du 50e anniversaire qui a pour slogan « 50 ans d'immigration marocaine, c'est du belge ». C'est donc cet esprit de citoyenneté que la plasticine a souhaité mettre en avant.
L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas dans le repliement identitaire, mais on est beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre. Et cette problématique qu'il peut y avoir aujourd'hui entre juifs et arabes par méconnaissance de l'histoire, surtout je pense aux jeunes générations, aux enfants, aux adolescents qui ne connaissent pas ce qui a pu se passer à un moment difficile de l'histoire, c'est une façon de leur montrer que les choses n'ont peut-être pas été toujours aussi tranchées entre ces deux populations et qu'à des moments difficiles de l'histoire, les gens ont été capables de s'entraider, de se retrouver ensemble. Et donc c'est dans cet esprit d'ouverture et de citoyenneté qu'il me semblait important de ramener à la mémoire des choses qui étaient très enfouies, voire complètement occultées aussi dans les livres d'histoire. En France, dans les livres d'histoire, on ne dit pas du tout que c'est les lois anti-juives qui ont été amenées par les Français. C'est quelque chose, bon, on le sait matériellement, mais c'est pas une analyse qu'on fait des événements.
L'exposition est une façon d'attiser la curiosité des citoyens sur une partie de l'histoire peu connue. Elle ne se veut en aucun cas être exhaustive. Bettina Massa s'est appuyée sur divers travaux qu'elle propose aux visiteurs. Il y a entre autres les livres de Robert Staloff ou encore l'exposition Juste musulman qui s'est déroulée à Londres.